entrevues. Radio Shalom Bourgogne, 97.1 FM.
Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, nous sommes aujourd'hui avec Madame Nathalie Goulet, sénatrice, qui vient de commettre un ouvrage qui est sorti en janvier 2025 au Cherche Midi et qui s'appelle « L'argent du terrorisme ». Alors je rappelle avant d'interroger Madame Goulet qu'elle est spécialiste notamment de ces questions-là au niveau du Sénat, les questions de sécurité, de législation et de financement du terrorisme. Et qu'elle a piloté des enquêtes et notamment été rapporteur pour une enquête importante sur la criminalité financière. Bonjour Madame Goulet.
Mais bonjour, merci de m'avoir sur votre antenne.
Je vous en prie, nous sommes très honorés de vous avoir, surtout pour un livre qui paraît important dans le contexte, parce que je crois que beaucoup de nos concitoyens et nos auditeurs n'imaginent pas comment des opérations anodines sur le plan financier peuvent être en fait liées au financement du terrorisme. Donc
absolument.
La première question pour moi, c'est dites-nous un petit peu ce que ça représente en masse et en argent avant de venir concrètement dans ce qui se passe.
Je ne suis pas du tout, alors là je vais sûrement vous décevoir, mais je ne suis pas du tout certaine qu'on puisse évaluer en millions, en milliards les montants qui servent à financer le terrorisme. Parce qu'en réalité, si vous voulez, vous avez une masse de fabrication d'argent sale.
D'accord.
De criminalité organisée, la drogue, le trafic de migrants, le trafic d'êtres humains tout simplement, la contrefaçon, les cartes prépayées, les cryptoactifs, le trafic de drogue bien entendu, mais aussi tout un tas de trafics qui est une espèce de grande fabrication d'argent sale. Cet argent sale ensuite est blanchi, avec des procédés multiples et variés dont on reparlera, et puis vous avez une espèce de tuyauterie qui consiste à avoir de l'enrichissement personnel, typiquement blanchissement de fraude fiscale, du réinvestissement dans les réseaux criminels, et puis du financement du terrorisme. C'est-à-dire qu'en fait, le financement du terrorisme utilise les mêmes réseaux que la délinquance financière. Et donc, vous donnez des montants, j'en suis incapable. On a des chiffres, par exemple, sur des opérations criminelles, des opérations terroristes avec des réseaux de drogue ou avec des opérations de contrefaçon, ou etc. Mais on a, enfin, moi, en tous les cas, je n'ai pas de montant consolidé et je ne crois pas que ça existe. Comme
d'accord.
On a d'ailleurs beaucoup de mal à avoir un montant consolidé de fraude fiscale ou de criminalité organisée. Le blanchiment en France, c'est entre 40 et 50 milliards par an. On n'a pas un montant consolidé de fraude fiscale, par exemple. On n'a pas non plus un montant consolidé de fraude sociale. Par définition, c'est des sujets sur lesquels on a du mal à consolider puisque nos données ne sont pas très exactes.
Alors, essayez de nous montrer un petit peu quelles sont les sources en matière de financement pour le terrorisme. Concrètement, en nous donnant quelques exemples des moyens que vous avez cités précédemment.
Bon, alors, vous avez en fait beaucoup de trafic qui permettent de financer le terrorisme. Vous avez par exemple le trafic d'or, vous avez la contrefaçon. On se rappelle que les frères Kouachi ont utilisé la contrefaçon de chaussures Nike pour financer l'attentat de Charlie, notamment. Vous avez des trafics de migrants qui servent à financer le Hezbollah. On a une affaire très récente de 2024 avec un réseau qui a été arrêté en Pologne. Lorsqu'on a démonté les réseaux financiers de ce réseau, une trentaine de millions pour le Hezbollah, une dizaine de millions pour le djihad islamique. Vous avez aussi... évidemment du trafic d'espèces, vous avez naturellement le trafic de drogue hein, qui sert évidemment à financer le terrorisme avec des liens entre les cartels de la drogue et les grandes organisations terroristes. Enfin, c'est assez inquiétant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle en réalité j'ai eu beaucoup de mal à écrire un livre sur le financement du terrorisme et j'ai fini par faire celui dont on parle aujourd'hui qui est un espèce de dictionnaire. Vous avez en fait un dictionnaire du financement du terrorisme avec le trafic d'armes, le trafic de migrants, les cagnottes en ligne qui servent aussi à financer du terrorisme, parce qu'une fois que vous donnez, même si l'objet vous semble légal et tout à fait formidable, les fonds peuvent être complètement détournés, et on en a quelques exemples. Voilà. Vous avez aussi des crédits à la consommation que des gens prennent très facilement et qui n'ont pas du tout l'intention de rembourser, qui servent à financer le terrorisme.
D'accord.
Vous avez de la piraterie, etc., etc. Donc, si vous voulez, vous avez tout un inventaire à la Prévert des moyens de financer le terrorisme avec l'explication et puis surtout les exemples précis.
Alors, vous parlez dans votre travail aussi de l'art et aussi de l'immobilier.
Oui.
Alors, l'immobilier, on sait qu'il y a des affaires autour du fiscal, du blanchiment, mais le lien avec le terrorisme. Donc, l'immobilier serait aussi un creuset pour cet argent ?
Oui, par exemple, vous avez les manipulations ou les opérations autour des parts de SCI. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va financer le terrorisme, c'est tout ce qui va permettre de créer des écrans et de l'opacité dans les réseaux financiers. Prenons un exemple simple d'une cagnotte en ligne. Vous avez une cagnotte pour acheter des ambulances pour la Syrie qui se reconstruit ou pour Beyrouth qui est dans un état catastrophique, etc. Donc, au demeurant, l'objet de cette cagnotte en ligne est tout à fait bienveillant, etc. Donc, vous allez avoir plein de gens qui vont déposer de l'argent pour cette cagnotte en ligne.
Oui,
En toute bonne foi, sur le compte d'une association, sur le compte du collecteur. Mais en fait, les fonds vont être virés sur un compte au Moyen-Orient et l'usage en sera détourné. C'est d'une simplicité incroyable. C'est une simplicité déconcertante.
Partiellement ou totalement ?
Mais donc les gens, bah, totalement, tant qu'à faire.
Les gens qui donnent ne demandent pas de compte. Enfin, il n'y a pas de... Oui. En général, il donne sur une réaction sentimentale.
Le délai entre le don et la réalisation ne permet pas le contrôle.
Mmh. Donc les ONG, vous peuvent être un...
Ah, les ONG sont très très pourvoyeurs. D'ailleurs, on a le cas d'ONG financées par l'Union européenne qui sont notamment en lien très clair avec les frères musulmans et des financements européens très importants au profit d'ONG dont les valeurs ne sont pas du tout celles de la République.
On viendra sur les ONG pour d'autres raisons que vous imaginez bien. Et alors l'immobilier, parce que évidemment tout se mélange après ce que vous avez dit en introduction.
Ah oui, parce que si vous voulez, de même que les criminels sont pluridisciplinaires, les financements du terrorisme utilisent exactement les mêmes réseaux que la criminalité organisée. Donc ils sont pluridisciplinaires, extrêmement réactifs. Vous avez par exemple beaucoup d'usages de crypto-actifs, mais vous avez des moyens très traditionnels comme la Wala, qui est un système très très ancien qui ressemble un peu aux lombards des rois maudits, vous voyez. Vous donnez de l'argent en France, cet argent ne quitte pas la France, mais va arriver en Syrie, en Irak, où vous voulez, simplement par un coup de fil entre personnes de confiance. Et en fait, l'argent n'a jamais quitté la France, c'est une espèce de compensation dans des réseaux très très bien organisés, totalement opaques, totalement à l'abri de n'importe quel contrôle, puisque l'argent ne quitte pas la France. Vous allez donner de l'argent à votre voisin de palier qui a un cousin en Algérie, et vous avez besoin de payer quelqu'un en Algérie, bah c'est votre voisin qui va prendre l'argent et qui va dire à son cousin de payer en Algérie telle et telle somme, et l'argent n'aura jamais quitté la France, et puis il y aura des compensations qui se feront comme ça. Alors, je vous donne un exemple particulièrement simple, je grossis le trait pour que les gens comprennent cette manipulation qui est ancestrale et qui existe partout.
Très bien.
Donc, terrifiant. Oui. C'est juste terrifiant.
Alors, est-ce que vous pensez, parce que ça fait un moment que vous travaillez sur ce sujet, on le sait, est-ce que vous voyez des nouveaux risques en termes de milieu, en termes de méthode, en termes d'efficacité, ou est-ce que c'est toujours à peu près la même chose ? Ou est-ce que dans le monde actuel, en 2025, vous voyez apparaître d'autres menaces ? et
oui.
en matière d'extrémisme qui pourraient aussi se situer dans cet ensemble, hein, évidemment, d'utilisation de l'argent.
Oui, bien sûr. Alors bon, il faut aussi savoir que l'extrémisme, la suprématie blanche, extrême droite, etc., fait aussi beaucoup de dégâts et utilise les mêmes réseaux. Oui, alors vous avez raison, parce que on assiste aujourd'hui à des chocs de technologie. Lorsque vous avez l'intelligence artificielle qui intervient, l'intelligence artificielle, c'est formidable pour un certain nombre de choses et c'est terrifiant pour d'autres choses. Par exemple, pour véhiculer des faux messages, pour détourner des messages au profit de messages terroristes, l'accélération du numérique pour un certain nombre d'opérations, tout ça crée évidemment un environnement de dangerosité tout à fait nouveau et très très préoccupant, bien sûr.
Très bien. Est-ce que la France, dans votre étude, bon, vous vous intéressez évidemment déjà avant tout à la France et à l'Europe, est-ce qu'il y a des évolutions particulières dans notre pays en Europe? Accélération, transformation?
Alors, depuis les gros attentats de 2015, il y a une amélioration évidemment spectaculaire et heureusement. Une réorganisation des services, une réorganisation du renseignement financier, une réorganisation du renseignement, une coopération européenne qui est évidemment bien meilleure, Europol qui est un outil extraordinaire, Interpol qui fonctionne très bien. On stoppe des projets d'attentats tous les jours, hein. Nos services sont de ce point de vue-là tout à fait exemplaires et il faut vraiment leur rendre hommage. Donc oui, il y a évidemment de l'amélioration, mais ce qui est intéressant et ce qui est surprenant, si vous voulez, dans le dictionnaire de l'argent du terrorisme, c'est qu'on constate que des choses absolument banales sont détournées pour financer le terrorisme. Prenons la contrefaçon, par exemple. Quand vous achetez un faux sac Vuitton, une fausse chemise Lacoste, vous n'avez pas l'impression de nourrir des réseaux terroristes. Et pourtant, c'est un élément extrêmement important qui finance de la criminalité organisée et des réseaux terroristes.
Il
n'y a
pas
que
conscience
ça.
Du tout, oui. Enfin,
ah non, mais pas conscience du tout. D'ailleurs, quand je vais venir à
Dijon...
C'est
important que vous en parliez, parce que c'est...
Je fais tout un développement sur ça, parce que la contrefaçon, ce n'est pas seulement luxe. C'est aussi des médicaments en ligne, dans le meilleur des cas, font aucun effet, mais dans d'autres cas, sont toxiques. Vous avez aussi des pièces détachées d'avions, des pièces détachées de voitures, des faux jouets, enfin des jouets contrefaits et pas dans les bonnes normes. Alors non seulement c'est un danger pour la santé, c'est un danger pour l'économie, mais c'est aussi un danger pour l'environnement parce que c'est aussi souvent des produits qui sont produits dans des conditions de normes apocalyptiques. Donc cette contrefaçon, par exemple, c'est un sujet dont les gens n'ont absolument pas conscience, ni que ça finance le crime, ni que ça finance le terrorisme. De la même façon, un certain nombre de détournements, comme je parlais des cagnottes en ligne tout à l'heure, ça appelle à beaucoup de vigilance de la part de nos concitoyens et de la part des citoyens tout court. Et si vous voulez, ce qui est extrêmement intéressant, c'est la diversité. Vous avez par exemple le trafic d'or. Alors vous allez me dire, mais le trafic d'or en France, bah oui, non, là, d'accord, mais enfin les gens voyagent. Et quand vous allez voir par exemple la carte de l'Afrique, vous allez constater, comme par hasard, que le Mali, le Togo, le Burkina Faso, le Soudan sont des pays extrêmement producteurs d'or. Et comme par hasard, c'est des pays où il y a évidemment un taux de terrorisme, un taux de violence, un taux de criminalité énorme. Et aussi un taux de prélèvement d'or qui est massif et l'or qui est extrait de ces pays, curieusement, on n'en retrouve pas la trace.
D'accord.
On n'en retrouve pas la trace, mais on sait où il va, cet or. On sait où il est traité, on sait où il est revendu. Et donc, si vous continuez à avoir ce terrorisme en Afrique de l'Ouest, vous voyez bien que ça a des conséquences sur la France. D'abord, parce qu'on est très mal aimé et très mal reçu. Vous voyez qu'on vient d'arrêter aujourd'hui la coopération militaire avec le Mali. Mmh. C'est quand même un très mauvais signal. Vous voyez bien que l'Afrique de l'Ouest est dans un état catastrophique et que ses relations avec la France sont dégradées à un point inimaginable. Ça, c'est dangereux pour la France et c'est dangereux pour du terrorisme qui viendrait d'Afrique de l'Ouest, en plus francophone. De la même façon, ce terrorisme, ça provoque des réseaux de migrants. Lesquelles filières financent le terrorisme? Parce que le blanchiment d'argent sur le trafic de migrants, c'est 5 à 7 milliards par an.
Pour la France.
Et ensuite, le contribuable français doit payer 1 milliard 4, enfin, doit dédier 1 milliard 4 du budget pour les associations qui s'occupent de l'asile et de l'intégration de ces migrants. Donc vous voyez, même si l'Afrique c'est loin, c'est en fait tout près. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est précisément, et la conférence que je vais faire, elle est à la fois sur le terrorisme, mais puisque je viens de finir une commission d'enquête sur la criminalité organisée, ce que je tente d'expliquer, c'est que les tuyauteries sont les mêmes. Et donc, il est extrêmement important de lutter contre la criminalité organisée pour des raisons budgétaires et pour des questions de sécurité, et aussi parce que ça alimente du terrorisme.
Très bien. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de l'état d'amélioration du
Oui, bien sûr.
contrôle,
Oui, oui, oui.
de
Ah,
la
oui.
répression. Peut-être en dire quelques
Oui.
mots sur les instances qui existent en France et en Europe, mais aussi, surtout, nous dire vos propositions, parce que suite notamment à l'importante commission que vous avez animée
Oui.
avec un collègue, vous avez fait des propositions qui, j'imagine, sont à l'étude, ou en tout cas, sont au travail.
Alors, les propositions sont faites. On a fait évidemment cette commission d'enquête avec mon collègue Raphaël Daubé, qui l'a présidée, moi, en étant le rapporteur. Donc, mon rapport commet un certain nombre de propositions. Il ne vous a pas échappé qu'on n'avait pas de gouvernement et que le temps parlementaire était très court. Mais il y a des mesures, notamment, qui n'ont pas besoin de loi, des mesures réglementaires d'application qui doivent être prises. Et puis, il y a un certain nombre de dispositifs. Par exemple, les entreprises n'ont pas à déclarer si elles ont des comptes à l'étranger. C'est complètement aberrant, puisque évidemment, les particuliers, vous et moi, si vous disposez d'un compte à l'étranger, vous devez le déclarer au fisc. Et bien, les entreprises n'ont pas à le faire. Vous imaginez que pour frauder, quand vous avez des comptes à l'étranger, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc il faut créer une obligation, par exemple, d'avoir à déclarer les comptes à l'étranger. Ah oui, c'est tout
Ça,
bête.
c'est pour lutter
Bon.
contre le blanchiment, notamment.
Oui, c'est ça. Voilà, donc il y a un certain nombre de dispositions qu'on prend. Alors, c'est un peu abstrait à la radio, mais je vais quand même essayer de vous décrire ça. Vous avez des entreprises, qu'on appelle des entreprises éphémères, qui ne se constituent que pour frauder. Elles n'ont pas un vrai siège social, elles ont une domiciliation. Elles embauchent un tas de salariés, vont utiliser une partie de cash pour payer leur salaire, vont donc commettre, notamment en matière de bâtiment, mais pas seulement, des factures et vont faire des devis qui vont être beaucoup moins chers que les entreprises qui doivent payer des loyers, des salariés, des charges, etc. Ces entreprises éphémères fleurissent sur nos territoires, contractent, embauchent des salariés, encaissent de la TVA, réalisent parfois plus ou moins bien, prenons des appartements, des immeubles, un lotissement, enfin peu importe, le bâtiment est un sujet récurrent, avec des conditions de sécurité moins bonnes, des matériaux moins bons, des salariés payés en partie au noir, des charges sociales pas payées. Le temps que l'URSSAF se réveille, le temps qu'il y a un contrôle, le temps que les services se rendent compte que la TVA n'a pas été reversée, ces entreprises ont disparu. Voilà. Ça s'appelle les entreprises éphémères, comme leur nom l'indique. Et elles sont des vecteurs, non seulement de blanchiment, mais de criminalité et de financement du terrorisme.
D'accord, c'est ça, ça mélange plus. Donc, vous parliez
De
évidemment
ces
des
mélanges.
limitations d'usage des espèces, etc. Alors, vous voulez renforcer la surveillance des secteurs à risque, hein, c'est ce que j'ai compris
Oui.
dans votre travail. Alors, je sais que les ONG ont été un peu agacées par vos propositions parce qu'elles ont peur, enfin, certaines ONG, hein, je devrais être beaucoup plus précis, elles ont peur qu'on les embête trop, on exige trop
Ouais.
d'elles, etc.
Ouais.
Qu'est-ce que
Ah
vous
bah
en
très bien.
pensez
Exigeons.
objectivement?
Exigeons. Exigeons parce que c'est de l'argent public. Ça appelle à ce qu'il y a de plus humain entre nous. Et vous voyez, je vais vous donner un petit exemple qui n'est pas franco-français, mais je pense que vos auditeurs vont comprendre ce que je dis. La Cour des comptes européenne vient de rendre un rapport où il y a un doute sur l'affectation. Vous êtes bien assis. J'espère que vos auditeurs aussi. 7,4 milliards d'euros dont on n'est pas du tout sûr qu'ils ont été versés à des ONG qui respectent les valeurs de l'Union européenne, ni que les projets subventionnés ont bien été réalisés. C'est-à-dire que l'Union européenne aujourd'hui, cette espèce de grande machine, est absolument infoutue, incapable de contrôler 7 milliards 4, dont une partie vient du contribuable français. Alors, excusez-moi, pardon, si moi, je voudrais des contrôles. Je pense que le raisonnement, il doit se faire quand même de façon globale. Je pense notamment à l'Afrique, je pense aussi à l'Iran, qui continue à financer, notamment avec des cryptoactifs, des opérations purement terroristes, y compris au Yémen, avec de la piraterie qui coûte énormément d'argent à l'économie mondiale. Enfin, vous voyez, vous avez un inventaire de procédés. Donc, ce que je vais évoquer lorsque je vais venir à Dijon, c'est cette criminalité organisée pluridisciplinaire et en même temps qui finance le terrorisme.
Vous vouliez dans votre document créer un parquet national anticriminalité organisée. Est-ce que
Mais ça
ça
y est, c'est fait.
avance? Est-ce que...
C'est fait, ça a été voté dans la loi narcotrafic.
Donc ça,
Oui,
c'est
c'est fait, c'est voté et
un
ça se met en
résultat
place cette
direct de votre
année.
travail, parce que ça, c'était visiblement un élément clé.
C'est important. Alors ça devait être au départ un parquet anti-narco et puis le débat parlementaire l'a fait évoluer vers un parquet criminalité organisée qu'on nous étions plusieurs d'ailleurs à appeler de nos voeux.
D'accord,
Mais
donc on
si vous
trouve
voulez, ce
l'ensemble
qui
donc, de
est
la
un...
criminalité dans ce, dans ces
C'est ça.
missions.
C'est ça.
Alors, comment ça marche en un mot, pour ensuite parler de l'international? Qu'est-ce que c'est qu'un parquet national anticriminalité, dans le fond, pour le citoyen que je suis?
C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y aura, comme on a créé le parquet financier, c'est-à-dire qu'en fait, des procureurs attitrés et centralisés sur les questions de criminalité organisée, parce que c'est très très important de pouvoir avoir un parquet centralisé sur ces questions et très bien formé et très opérationnel et surtout avec des magistrats dédiés et formés à ces questions qui sont particulièrement difficiles et qui exigent beaucoup de technicité.
Oui, ce qui fera du transversal, j'imagine, une coopération
Voilà.
interservice plus simple.
Voilà. Et ça va chapeauter
Oui.
le voilà.
Très
Mais
bien.
c'est surtout pour l'organisation des procédures, c'est ce qu'on a c'était une Un excellent résultat qu'on a eu avec le parquet financier, par exemple, qui a été créé par la loi Sapin il y a quelques années et qui fonctionne remarquablement bien.
Alors, vous avez parlé de l'Europe, vous venez de parler des propositions dont certaines sont déjà
Oui.
actées pour la France. Alors, pour l'international et l'articulation entre l'Europe et l'international, qu'est-ce que vous proposez? On a bien entendu dans vos propos la complexité, la difficulté d'agir aujourd'hui.
Il faut du contrôle, parce que si vous voulez, ça ne sert à rien de voter des textes si on ne peut pas les appliquer. Voilà, donc je pense que le système bancaire et le contrôle bancaire est assez robuste, bien qu'il y ait des banques qui fassent parfois, soient parfois complices d'un certain nombre d'opérations. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de petites sommes qui font des grosses rivières. Moi, je pense qu'il faut appliquer avec beaucoup de discernement et beaucoup d'efficacité l'ensemble des dispositifs qu'on a déjà votés. Et puis, il faut se munir, il faut que nos services soient mieux formés. Il ne vous a pas échappé non plus que les services de police, de gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les services de renseignement sont tous à l'os. Et que d'un point de vue des effectifs, les magistrats sont aussi à l'os, que les tribunaux sont surchargés, etc. Donc, si vous voulez, il y a un ensemble à la fois des poursuites et de la répression sur lesquels il va falloir quand même avoir un œil attentif en ce qui concerne les effectifs. Et puis après, il y a les moyens. Les moyens, c'est de la formation. Je pense notamment aux cryptoactifs, mais pas seulement. C'est aussi évidemment une coopération internationale qui est en net progrès et qu'il faut améliorer puisque vous pensez bien que cette criminalité, elle est évidemment transfrontalière. Mais je crois que le sujet le plus important, c'est vraiment d'appliquer déjà tout ce qui existe, parce qu'on a quand même un arsenal qui est bon, il faut le compléter évidemment, mais on a déjà un arsenal qui est assez solide. Moi, je ne suis pas très optimiste, hein, pour tout vous dire.
Ben, je vais revenir un petit peu sur votre point de vue. Juste après, je voulais revenir. Donc, je rappelle, je suis avec Madame Nathalie Goulet, sénatrice, auteure du livre L'argent du terrorisme, publié en 2025 au Cherche Midi. Il y a un point qui questionne et intéresse beaucoup les Français, et notamment nos auditeurs et nos auditrices, c'est la question de la transparence financière, vous l'avez abordée, mondiale. Comment faire pour rendre obligatoire la publication, justement, des actifs et lutter contre les paradis fiscaux, parce qu'aujourd'hui on cherche de l'argent et on sait qu'il y a de l'argent perdu et de l'argent qui se cache, pour être tout simple dans mon propos. Comment vous envisagez qu'on puisse faire pour récupérer cet argent qui devrait être quand même taxé comme le reste de l'argent?
Ah, mes chers amis, il faut vouloir.
Bien.
Il faut vouloir. Et moi, je pense qu'il n'y a aucune volonté politique.
Donc ça fait le lien avec votre pessimisme?
Ben oui.
Alors,
Il n'y a aucune volonté.
quand vous parlez de la volonté, vous parlez du système politique international, vous parlez des
Oui.
autorités
Oui,
politiques.
la première chose qu'a fait M. Trump, c'est de couper les fonds des agences anticorruption. C'est aussi de remettre, d'annuler une législation sur les bénéficiaires effectifs. Bon, alors pour expliquer ça, si vous voulez, vous avez des sociétés, etc. Normalement, vous devez avoir le nom des actionnaires, pour faire clair. Mais vous avez des sociétés qui font des montages multiples. Et puis finalement, pour créer de l'opacité. Et vous avez un certain nombre de règlements qui obligent à avoir une transparence sur le bénéficiaire effectif. C'est-à-dire que même si vous créez 14 sociétés, mais qu'au bout de la 14e, le bénéficiaire effectif, il existe, il doit être déclaré, il doit apparaître quelque part. Ce qu'on appelle le bénéficiaire effectif, c'est ce qui permet de raccrocher un peu de transparence. Et donc, ce qu'a fait le président Trump, c'est de supprimer cette réglementation
Ah,
qui
d'accord.
concerne les bénéficiaires effectifs. Donc, ça crée de l'opacité, on n'a plus besoin de paradis fiscal, parce que, évidemment, si on n'a pas besoin de déclarer le bénéficiaire effectif, vous pouvez monter tout un tas de sociétés écrans et par là même frauder tout ce que vous voulez et vous n'aurez jamais le bénéficiaire final de vos opérations, ce qui, évidemment, crée de l'opacité au lieu de créer de la transparence. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'endroits qui refusent absolument ces transparences au nom de la liberté, au nom de tout ce qu'on veut, mais qui créent en fait de l'opacité propice à la fois à la fraude et à l'évasion fiscale et aussi à la criminalité organisée qui, comme je vous l'ai expliqué depuis tout à l'heure, utilise les mêmes réseaux. Et puis vous avez des pays qui font des efforts, je pense aux Émirats arabes unis, qui avaient une très mauvaise note et une très mauvaise réputation, qui viennent de faire une série de réformes très 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 profondes, y compris de la coopération judiciaire avec des extraditions de narcotrafiquants, mais pas seulement, ce qui ne faisait pas du tout, parce que c'était un havre de paix pour tous les trafiquants. Et les Émirats ont décidé de faire des réformes qui sont tout à fait remarquables et remarquées, puisqu'ils viennent de sortir de la liste grise des pays du GAFI, donc du groupement international qui s'occupe de noter les pays. Donc vous voyez, il y a du mieux parfois, il y a du moins bien parfois, mais globalement, le grand soir de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale n'est pas arrivé. Et tant qu'on n'aura pas mis fin aux paradis fiscaux, aux ports francs et à tout ce qui peut créer de l'opacité, eh ben on favorisera ces maniements de fonds qui peuvent être, encore une fois, du blanchiment de fraude fiscale, c'est pas bien, mais voilà, ça tue pas, enfin pas directement, mais ça peut être aussi du blanchiment de narcos, du blanchiment de trafic de migrants, du blanchiment de trafic de drogue, du blanchiment de piraterie, du contournement de sanctions internationales, je pense à la Russie et à l'Iran,
Oui, c'est ça, j'allais vous
qui,
le dire, oui.
voilà, dont on sait que l'Iran, avec. Je crois qu'on a trouvé 31 milliards de crypto-actifs illégaux, finance le Hezbollah, le Yémen, les Houthis, le Hezbollah, le Hamas et tout ce qu'on veut. Vous voyez, tous ces gens-là sont quand même pas des enfants de cœur.
Bon, vous n'êtes pas d'un optimisme béat, c'est le moins qu'on puisse
Non, je ne
dire.
suis pas du tout optimiste. Non, je ne suis pas du tout optimiste parce que je pense que et puis le climat politique actuel ne s'y prête pas beaucoup parce que si vous voulez, on n'a pas le temps de poser un texte complet sur le sujet comme celui qu'on a déposé le 31 juillet dernier avec mon collègue. On n'aura pas le temps législatif pour le faire. Ensuite, il faut une volonté politique. Et moi, je souhaiterais, pour revenir à un sujet terre à terre, parce que vos auditeurs vont probablement trouver que notre discussion est un peu décousue, mais je les renvoie évidemment au livre qui est très très simple. Hein. Vous allez voir le trafic d'armes, c'est très 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 bien expliqué le trafic d'armes, les cagnottes en ligne, la contrefaçon. Il y a des QR codes, des dessins, des exemples. Enfin, le livre est d'une simplicité. C'est un livre très pédagogique. Hein. Mais si vous voulez, moi conseillerait au Premier ministre Le Cornu de faire un grand plan anti-blanchiment, de faire une opération massive, de mettre la lutte contre le blanchiment en haut de son agenda. D'abord, ça va lutter contre la fraude fiscale qui est un crime démocratique, et puis en plus, c'est bon pour la sécurité du pays puisqu'il y aura moins d'argent qui ira aux trafiquants, qui crée cette insécurité. Enfin, toute cette criminalité, tout cet argent qui circule, etc., vous voyez bien que ça gangstérise nos rues. Et vous le savez chez vous aussi, puisqu'à Dijon, il y a aussi de la gangstérisation, comme partout.
Oui, la maire de Dijon et le maire de Chenôve, petite ville qui fait partie de la métropole, viennent de rencontrer le cabinet du ministre de l'Intérieur, justement, pour voir comment renforcer les moyens et les effectifs sur le territoire dijonnais qui est mal en point, effectivement. Ça devient quand même très compliqué. En tout cas, votre proposition du haut de l'agenda intéressera tous les citoyens, parce que je pense que
mais c'est pour ça que j'espère qu'il y aura du monde. J'espère qu'il y aura du monde. Je vais d'ailleurs quelques jours avant, avec ma collègue Catherine Loisier, qui est sénatrice,
ah oui, dans la région, oui.
Faire une petite tournée des élus, je crois. Qu'elle a prévu quelque chose sur ce même sujet. Mais je pense que c'est un sujet républicain. Enfin, faut vraiment que les gens comprennent que la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment, la fraude, et donc par conséquent le financement du terrorisme, qui est moins prégnant maintenant parce qu'il n'y a pas d'actes terroristes en France en ce moment, mais ce qui se passe en Afrique a une incidence directe chez nous.
Mmh.
Ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Afghanistan, mais je pense à l'Afrique de l'Ouest, évidemment, ce qui se passe dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est une catastrophe.
Oui, il y a des liens très forts entre les populations qui vivent en France et ces populations.
Non, mais il y a surtout d'un point de vue humain, une situation absolument intenable. C'est comme dans un singe en hiver, si vous voulez, le bidule entraîne le bidule. Vous avez une situation sécuritaire apocalyptique, vous avez un détournement des biens, je pense à l'or, aux minerais, etc., c'est-à-dire aux ressources. Vous avez une exploitation de ces ressources par des groupes terroristes qui, en plus, terrorisent les populations, les prennent en esclavage, etc. Enfin, on a vu Boko Haram, on a vu ce que ça donnait, etc. Donc, vous avez des masses de gens qui émigrent.
Ils se déplacent, oui.
Qui, en plus, tombent sur des filières de trafiquants de migrants. C'est-à-dire que, si vous voulez, tous. Et ces gens arrivent chez nous. Et il faut bien comprendre que le sort d'un enfant de 4 ans n'est pas de mourir échoué sur une plage. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Et tout ça est lié. Si vous voulez, il y a énormément d'argent en jeu dans ces situations d'insécurité qui profitent à des groupes qui ne veulent que le chaos. Et nous, on a parfois la queue de la comète, parfois un peu plus. Et on en subit évidemment les conséquences.
Écoutez, Madame Goulet, donc je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre tout à fait passionnant, « L'argent du terrorisme », qui est sorti aux éditions Le Cherche Midi en janvier 2025. Nous aurons l'occasion de vous rencontrer à Dijon le 19 octobre 2025.
Mais j'espère, oui, bien sûr.
En tout cas, j'invite les auditeurs et les auditrices à lire votre livre. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, je pense qu'on aura un débat fructueux parce que vous allez voir, c'est un sujet vraiment très républicain et la façon dont il est traité l'est tout autant. Et je pense que c'est un sujet qui doit vraiment interpeller les citoyens. Et qui sont contribuables.
Pour la plupart d'entre eux, oui. Madame Goulet, je vous remercie beaucoup
Merci à
et à
vous,
très
merci
bientôt.
beaucoup.
Merci d'être venu sur
Merci.
Shalom Bourgogne. Au revoir.
Merci de m'avoir invité. Au
Au
revoir.
revoir.
Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.